Kokomo, c'est une ville du comté de Howard dans l'Indiana aux États-Unis, avec 46 000 habitants. Kokomo, c'est aussi ce hit single des Beach Boys de 1988, racontant le voyage d'un couple d'amoureux sur une île des Caraïbes. Le groupe, originaire de Nantes, Kokomo, est un duo musical explosif, ultra charismatique. Deux bêtes de scène incroyables qui, en peu de temps et une flopée de concerts, font du bruit dans le Landerneau. À chaque montée sur scène, le tandem enflamme tout sur son passage. Révélation des trans musicales de Rennes et accompagné par le VIP de Saint-Nazaire, le duo a aussi écumé les clubs, des salles françaises ainsi que l'Asie, avec toujours cette même fougue et ce même entrain. Alors nous avons le grand plaisir de recevoir un groupe local, un groupe du CRU, sur les ondes d'Alternante FM, en la présence de Kokomo pour le festival des escales de Saint-Nazaire. Quelles sont vos impressions, messieurs, et ou vos ressentis avant de monter sur scène ce soir ?
Déjà, on est hyper content de jouer à Saint-Nazaire parce que c'est là où sont loges nos tourneurs et bookeuses, LMP Musique. Ça fait 3 ans qu'on bosse avec eux, on est hyper content. Donc c'est une date symbolique pour nous aussi. Puis gros festival, les escales, quoi, un des plus gros festivals de France. Donc c'est, voilà, c'est bien, bon spot.
Et écoute, par rapport à ta question au niveau du track, on va le prendre comme n'importe quel autre concert qu'on fait dans notre vie. Avec un pied gauche en moins, mais au contraire, ça va nous donner encore plus de force. Mais à chaque fois on adore jouer, que ce soit dans un bar ou sur scène. Mais là c'est vrai que c'est particulier, on n'est pas trop loin de chez nous. Et puis en plus, nous on trouve que c'est la meilleure scène des escales. La scène des estuaires, qui est quand même assez belle. Et puis avec une espèce de, je sais pas comment on dit, un dôme quoi. Et donc avec 3000 personnes devant, ça devrait être foufou quand même. Donc ouais non, on gère bien notre track là-dessus.
Puis là on est plutôt bien là, 20 mètres de l'eau. Je crois que le cadre est un petit peu rêvé hein. Je crois qu'il y a pire, on a un peu de soleil, donc ça fait toujours plaisir, ça réchauffe. Effectivement, ça transforme l'adrénaline en excitant plutôt qu'en inhibiteur. Hein. Je pense que pas que vous aurez les jambes coupées sur scène ce soir. Bien au contraire. Surtout, comme vous l'avez dit, cette scène permet de capter les énergies avec son dôme et donc d'avoir une grosse présence. Est-ce qu'il y a une différence de préparation entre un concert organisé, par exemple, ou une scène comme ça, comme les escales, où on est sur une scène ouverte, en termes de travail? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu techniquement ce que ça représente pour vous?
C'est 2 heures de sport en plus par rapport aux autres concerts et beaucoup de céréales le matin. Voilà.
On donnera pas la marque. Du bio plutôt?
Non, ouais, du bio, ouais, forcément.
Tu veux compléter?
Non.
C'est bon. Tout a été dit. C'est parfait. Une petite question par rapport à la signification de votre nom de groupe, Kokomo. Alors, j'ai fait mes petites recherches quand même en amont. Je sais que c'est une ville de l'Indiana, aux USA, et que c'est aussi un son des Beach Boys de 88. On a dû souvent vous le dire, bien évidemment, donc j'invente rien. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette signification?
On dit la vérité ou on dit une connerie?
On est sur alternant, donc on dit les deux.
D'accord. Vas-y.
Je dis la vérité ou je dis la connerie?
Qu'est-ce que tu
veux? Vas-y. Je vais rien dire.
Bah oui, effectivement, il y a la ville de l'Indiana, il y a aussi une réserve indienne là-bas justement, donc moi je suis assez passionné de l'histoire amérindienne, et il y a aussi un lien avec un bluesman qui s'appelle James Kokomo Arnold, qui a écrit l'ancêtre de Sweet Home Chicago, qui s'appelle Sweet Home Kokomo, et comme on faisait du bluestrad un peu au début, tout début du projet, voilà, en même temps, Kokomo c'est assez ouvert pour dire, signifier plein de choses dans plein de langues traditionnelles, donc c'est cool, puis c'est facile à retenir surtout.
Est-ce que justement cet artiste dont tu parlais, cet artiste blues, est-ce qu'il a un impact encore sur vos créations assez régulièrement, ou c'était plutôt en début de carrière, ou est-ce que régulièrement ça imprègne un peu vos textes ou vos instrumentaux?
À la limite, les textes, il y aurait plus de chances, oui, pour que peut-être qu'il y aura des chansons encore qui seront dans cette thématique-là, un peu delta blues, quoi. Mais sinon, non, musicalement, non, c'est plus un clin d'œil qu'autre chose.
Après, la musique de Kokomo, elle reste quand même blues à la base, mais comme beaucoup beaucoup de musique, je pense, on n'a rien inventé. Mais ouais, il y a quand même des consonances blues, même si c'est de la musique un peu rock moderne qu'on fait. En tout cas, j'ai pas le mot moderne, mais en tout cas, c'est un peu du rock 70s avec de 2017, quoi, quand même. Donc oui, mais il y a des consonances blues. Non, par contre, par rapport à James Arnold Kokomo, ouais, c'est juste un clin d'œil au niveau du nom, ouais.
Est-ce qu'on pourrait avoir une petite présentation de votre premier album, Technicolor Life, sorti en mars 2017?
Oui, il est beau, il est frais, il est chaud et il est orange. C'est notre premier album, tous les deux. On a tourné, ça fait 3 ans qu'on tourne. Ça fait 2 ans qu'on tourne bien. Et on l'a sorti quand? Mars 2017. On a tourné quand même pendant 2 ans avec un EP, 3 titres. Et c'est vrai, il y avait un titre enregistré en 2011, l'autre en 2015, l'autre, tu vois. Donc il avait un truc pour nous qui avait rapport, mais pour le public, il n'y avait pas forcément rapport à ce qu'on faisait sur scène. Donc ouais, ça permet de l'album, ça permet déjà de mettre plus de trois titres, plus de trois compositions sur une galette quand même, pour les gens, pour que les gens voient un peu la palette qu'on sait faire et qu'on a à faire au niveau des compos. Et puis oui, et puis il a été les particuliers, il a été enregistré à Nantes, donc chez nous, et puis il a été mixé à Liverpool par un Anglais qui s'appelle Al Groves, voilà, qui est anglais, qui a un gros studio à Liverpool qui s'appelle le Motor Museum Studio. Et une rencontre improbable, pile poil pendant nos pré-prod, qui nous a permis de pas lâcher l'affaire avec lui et de se dire c'est avec lui qu'on va bosser. Donc l'album, effectivement, c'est Warren et Kevin, mais c'est aussi Al Groves qui a mis un relief magnifique dessus, rien à redire. Ça a été très simple de bosser avec lui. Pas la distance ni l'internet, mais le musical, en tout cas l'artistique. Et donc il est moitié français, moitié anglais, et ça nous va très bien pour le style de musique qu'on fait, quoi.
Il est très talentueux, il a une très longue barbe aussi.
C'est ça.
Ça complète bien par rapport à ce que vous avez déjà autour des joues. Cette rencontre, elle s'est faite comment exactement? Tu parlais de pré-production. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails?
Avec Al, tu parles? Ouais. Ben, on bosse à. Donc, on est nantais, encore une fois. On bosse avec un gros dispositif qui s'appelle le Trampolino, qui est assez connu dans le milieu de l'art à Nantes. Ils font plein de choses, des locaux de répé, des locaux de studio, des concerts, ils donnent des cours aux jeunes, etc. Mais il y a plein de trucs qui se passent. Ils font des formations aussi, et dont une formation à Liverpool. Donc tous les ans, ils y vont avec certains stagiaires pour bosser dans un studio, voir comment on bosse dans un studio, voir comment à l'anglaise ils bossent, faire des rencontres dans la musique, ils font des morceaux après ensemble, etc. Et donc Al a eu notre EP dans les mains et Karim de Trampo nous a lancé un peu dessus. Il est venu 2 jours à Trampolino, bosser gratuitement en gros avec nous pour voir un peu notre identité, notre musique, notre personnalité et ça a matché comme on dit aujourd'hui. Le truc s'est très bien passé. C'était vraiment une rencontre vraiment pile poil au moment où il fallait. Et puis il aime beaucoup le projet aussi, il nous suit, il est très fier d'avoir bossé avec nous. Et pourtant il bosse avec, tu vois, il a bossé avec du monde avant. Donc ouais, pour nous c'est une fierté. C'est vrai que on aime beaucoup de sondiers nantais et d'ingénieurs du son, mais on voulait un truc à part et on l'a eu. Et je pense qu'on continuera à bosser avec lui.
Alors, Al Groves, c'était pour le son, pour la production musicale. Est-ce qu'il y a eu un impact aussi sur les textes, c'est essentiellement vous qui travaillez dessus, Warren?
C'est plus ma partie, ça, du coup. Et bah sinon, non, les textes parlent de ma relation avec ma chérie depuis 2 ans, 3 ans. Et voilà, avec plein de doubles sens, notamment Cherokee, qui parle aussi de l'arrivée des Européens aux États-Unis, ouais, aux Amériques, comme on disait à l'époque. Et c'est ça. Et non, mais voilà, après, je suis pas un chanteur non plus à texte. Voilà, nous, ce qui nous plaît, c'est vraiment le son, je pense. Voilà.
Et puis Al n'a rien dit sur son accent, tu vois. Il aurait pu dire, bah non, c'est un. Hein. Et non. Mais non, ouais. Al n'a rien dit.
Alors, il a pas osé. Dans vos créations, est-ce que vous partez plutôt des sonorités pour aller vers de l'inspiration, ou c'est plutôt une inspiration, un texte qui va justement, Kevin, sur la production musicale, avoir un impact, ou c'est un jeu entre les deux, il n'y a pas forcément de règles?
Je dirais qu'il n'y a pas de règles. Il y a des textes qui ont été écrits après que la musique soit faite. Et c'est souvent Warren qui ramène les gros riffs de gratte, parce qu'il joue mieux de la guitare que moi, je pense. J'en suis même sûr. Donc ouais, il ramène des gros riffs de gratte. Après, on arrange tous les morceaux ensemble. Je ramène ma patte un peu électro. Non, ça se fait très simplement. En plus, on n'est que deux, donc tu vois. Ça se fait très simplement, et puis Warren te dira plus que moi, mais lui il a fait des textes des fois après, des fois il avait des textes et la musique s'est faite après.
Ouais, il n'y a pas de règle en fait. Tout peut t'inspirer, faut réussir à trouver qu'est-ce qui déclenche le truc inspirant, quoi.
Donc justement, tu parlais un peu du grand thème par rapport à l'arrivée des colons, on va dire, aux Amériques. Et aussi aux relations amoureuses. L'amour est un grand thème qui est abordé dans votre CD. L'amour pluriel, comment on peut l'envisager, cet amour-là?
Bah, pluriel, non, mais parce que non, je me suis bien avec ma chérie, moi j'ai une zouze et ça me suffit.
Non, par contre, oui, ça peut avoir, enfin, c'est très métaphorique et il peut y avoir deux sens. Tout le monde peut s'y retrouver avec son chien, son chat, sa maman, son papa. Donc ouais, il y a beaucoup de double sens et moi c'est ce que j'aime. Moi, j'ai jamais critiqué les textes de Warren. Je parle anglais, je comprends l'anglais, mais je suis pas bilingue comme lui. Mais les textes sont simples, comme tu disais. C'est pas des chansons à texte pour le moment, mais ça peut parler à tout le monde, pour n'importe qui, n'importe quoi.
Le titre de l'album, Technicolor Life, est directement en lien justement avec cette diversité d'influences.
Ouais, bah déjà, il est très coloré dans la musique aussi. Et puis, il y a des textes qui parlent aussi de couleurs, de peinture, tout ça. Tout ça, c'est en lien avec ma chérie qui est peintre aussi. Et puis, c'est elle qui a fait l'album, donc on lui fait un gros bisou, et qui a fait la pochette. Ouais. Et puis non, c'est aussi d'essayer d'amener un petit peu de fraîcheur et un petit peu de couleur, quoi, tout simplement.
Et puis un renouveau dans Kokomo, quoi. Ouais. Tu vois, c'était notre premier album. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a fait un EP de 3 titres et on tournait avec ça pendant 3 ans. Puis d'un moment, on voulait faire un petit renouveau. Et puis par rapport à la pochette, par rapport à toute l'histoire de Warren et la mienne, ouais, c'est Technicolor Life, ça allait très bien avec.
Une petite question par rapport au clip maintenant. Est-ce que vous avez une liberté totale de création? Est-ce que vous avez des conseillers, des collaborateurs avec qui vous êtes? Comment ça se déroule en fait la création des clips?
Déjà, on a plusieurs clips. Et mine de rien, les 4 clips qu'on a ont été faits avec 4 réalisateurs différents. Maintenant, on commence à prendre un peu plus la main dessus sur les idées, mais on bosse avec un réal qui est super, qui nous suit et qui va nous suivre longtemps. C'est Manou, son petit nom, mais il s'appelle Sébastien Marquet, qui est nantais, qui bosse avec plein de gens dans la vidéo sur Nantes. Le Killing the Kid, il a été fait avec Charlie Mars aussi, qui est quelqu'un de connu dans la vidéo à Nantes et d'ailleurs en France. Et puis voilà. Après, oui, on a notre main dessus.
On a surtout les quartiers libres, comme tu disais. C'est ce qui fait aussi notre force aussi, je pense, depuis le début, c'est qu'on nous fait totalement confiance autant sur l'artistique musicale que sur le reste, sur nos démarches et tout ça. On nous conseille, mais on ne dit pas il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, nous, on apporte nos idées à chaque fois. Enfin, voilà.
Ouais. Et puis après, les réals apportent son truc. Ils nous donnent des idées, puis on le suit ou on le suit pas. Mais des fois, on se laisse emporter par le truc. On fait confiance à la personne avec qui on bosse, quoi.
On aura compris qu'il y a un gros réseau local hein, sur Nantes qui permet d'avoir une proximité. Hein. Ouais. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors, vous avez l'originalité d'avoir fait de la scène et des tournées sans avoir produit d'album. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. C'est plutôt rare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce phénomène? Parce que, alors, je m'explique. Parfois, ça peut être assez difficile lorsqu'on veut vivre de sa passion. En général, en tournée, quand on part en tournée, qu'on a un album, ça permet de faire fructifier son art, et notamment les ventes d'un album. Alors vous, c'est un petit peu le chemin inverse, finalement, d'une certaine manière. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ça?
Ouais, c'est compliqué comme truc. Enfin, compliqué. Déjà, Warren et moi, c'est une rencontre. On s'est rencontrés, ça a été un hasard. Après, c'est comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais on s'est rencontrés à un moment propice. On a trop aimé jouer ensemble. On a commencé à faire des concerts, comme n'importe quel artiste. On s'est pas dit tiens on va faire un album avant de jouer parce que c'était pas trop notre truc, nous c'était vachement l'impro. Donc voilà, après effectivement faut poser un truc sur galette. On a voulu se faire une petite maquette, ça a été notre premier EP qui est même plus en vente, qui n'existe plus, mais on a voulu faire ça en maquette. On s'est dit bah tiens c'est pas mal, en fait on va peut-être faire un petit disque de 5 titres pour pouvoir le vendre. Ça s'est fait comme ça. Après on bosse avec LMP Music, donc ils viennent de Saint-Nazaire qu'on disait tout à l'heure, qui ont 15 ans d'existence, et d'ailleurs la date de soir a rapport avec ça et c'est vraiment super, il y a un petit retour aux sources pour eux. Et c'est eux qui ont mis un peu beaucoup de billes aussi dedans. On a fait une campagne participative parce qu'on a fait un album, ça coûte des sous quand même. On n'a pas de grosse major. On bosse avec LMP qui sont une petite association à la base, mais qui commence à grossir avec nous et on est très content de ça et on a envie de continuer là-dessus. La preuve, on est encore libre de faire ce qu'on veut dans la musique et ça, on a vraiment de la chance. Ouais, après, je sais pas si on est le seul. Enfin, on n'est pas le seul groupe à avoir tourné et puis à avoir fait un album après.
Déjà, on est deux, donc pour voyager, c'était.
Ouais, on a beaucoup tourné en fait. On a beaucoup tourné. C'est ce qui nous a. Après, LMP nous a dit bah tiens, ce serait bien qu'on sorte un album à ce moment-là. On fait bah ouais, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et on était très contents de le faire. Ils ont mis des billes. Nous aussi, on a mis des billes. Et voilà, peut-être que le deuxième album sera différent parce que le deuxième album, on va le créer. Et puis peut-être qu'on fera une tournée spéciale pour cet album-là, par exemple, en jouant encore des morceaux du premier album, comme beaucoup de groupes font. Mais c'est vrai que ça n'a pas commencé avec l'album et après les dates. On a fait les dates. Mais moi, j'ai trouvé ça normal en fait.
Bah ouais, bah on n'a pas signé avec un major direct, donc voilà, c'est ça.
Intéressant. Il vaut mieux aller doucement et sûrement.
Ouais. Alors un petit retour aux origines. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu brièvement de vos parcours personnels en région nantaise?
Commence donc si tu veux.
Ouais.
Ça plus court.
Bah oui, c'est ça. Salaud. Bah déjà, c'est ça. Bah déjà, ouais, moi ça n'a pas été compliqué. J'ai fait juste quelques buffs dans les bars au moment où ça jouait un peu plus blues. Ouais, excuse-moi, j'ai un peu tiré ton truc. Genre le canotier, ces scènes-là, le TNT à l'époque où il y avait le Blues Fest. Et puis, non, après quelques bars comme le bar du coin, le Dynamo Café, tout ça. Et puis après avec Okomo, Stérolux et Ferrailleur. Et puis voilà quoi. C'est cool. Donc voilà, c'est plutôt simple pour ma part.
Moi je vais pas raconter ma life, mais c'est vrai que moi ça fait donc 16 ans que je suis intermittent du spectacle, donc tout va bien. J'ai joué avec beaucoup de groupes nantais. On a joué d'ailleurs il y a 6 ans pour les 20 ans avec Walco, j'étais le batteur de Walco à l'époque, un gros groupe d'afrobeat de la région, du Cru. Et après j'ai joué, bon, en tant que batteur j'ai joué dans plein de groupes, je suis compositeur arrangeur aussi pour plein de trucs. Moi je viens plutôt du milieu hip-hop à la base. Après je suis très influencé Björk, Radiohead, musique islandaise, etc. Ce qui nous rapproche aussi avec Warren pour certains trucs. Donc oui, bah, après je vais pas raconter toute ma life, mais c'est vrai que j'ai fait des machines aussi, des samplers, des platines dans Mix City par exemple pendant 10 ans. J'ai joué avec Carl Davis, j'ai joué avec plein de groupes différents dans Nantes. Des groupes qui ont duré 2 ans, 3 ans, d'autres qui continuent encore, mais j'ai mis un petit peu ma patte à l'édifice et puis après je suis parti. Voilà, après c'est de rencontre en rencontre en fait, hein, tout simplement. Et puis là, voilà, ça fait 3 ans qu'on est avec Warren et ça me va bien. Je me verrai pas jouer dans d'autres groupes pour le moment.
C'est stable, de la stabilité, ça fait pas de mal. Alors justement, vous êtes rencontrés en travaillant sur le groupe Moongai, si je dis pas de bêtises. Ouais, qui sont nazariens. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, justement, de cette rencontre par rapport à ce groupe?
Je vais raconter le début, c'est-à-dire que moi j'ai commencé avec Moongai très tôt en tant que batteur, on était en mode trio, après les musiques se forment et le groupe change, un clavier est arrivé, puis après l'album a été fait, qui a été signé par Warner à l'époque, et sur l'album Greg le compositeur a mis beaucoup de guitare, et donc sur scène il fallait bien représenter un peu le truc, donc Warren a été pris la dernière année, il avait 17 ans, 18 ans, Et pour nous ça a été la rencontre, on a fait des résidences, on a répété, puis pendant les post-clops nous on jouait tous les deux guitare batterie et puis on s'est fait merde, il faut qu'il se passe quelque chose. Et puis pour l'anecdote, ce que je dis souvent et que j'adore, c'est que on était dans un gîte, chacun avait sa chambre, puis on s'est regardé avec Warren, quelle idée, pourquoi on va chacun dans une chambre, pourquoi on va pas dormir tous les deux, et puis blablabla, et puis c'est venu comme ça et on en est là aujourd'hui. Mais c'est une histoire de rencontre en fait et de... Il s'est passé un truc, quoi. Hein ?
Et ce groupe, Moongai, à l'heure d'aujourd'hui ?
Eh bien, tu leur demanderas.
Ok. Vous avez fait une tournée en Asie. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu comment s'était faite la connexion avec le continent asiatique, un petit peu, puis ce que vous en aviez retiré.
Tu veux, j'y vais ? Vas-y. Où tu iras, j'irai ?
Ouais, c'est ça.
La première tournée en Asie, c'était une tournée en Chine. C'est même avant les transmusicales de Rennes en 2015. C'est un mec qui s'appelle Ismaël avec un autre collaborateur qui s'appelle Charles Chu. Ils nous ont rencontrés, ils nous ont vus sur scène, ils ont carrément flashé. Et ils tenaient eux le FMT, le French Miracle Tour. Je l'ai bien dit, French Miracle Tour. Et voilà, et donc on est parti avec Tilacine, on est parti avec 4-5 groupes nantais et angevins. Et ouais, c'était une grosse tournée. Nous, le groupe a resté plus longtemps. On est resté 3 semaines là-bas. On a fait quatre grosses villes de Chine, dont Pékin, Wuhan, Shanghai. Et puis après, on est parti en Indonésie. C'était une grosse expérience pour nous. C'est ce qu'on dit souvent. C'est une des grosses scènes qui nous ont fait flipper, mais dans le bon sens. Devant 70 000 personnes à 14 heures, on n'a rien compris de ce qui se passait sur une scène de 1000 mètres sur 1000 mètres. Et donc c'était hyper impressionnant pour nous et très content. Après on a été accueillis comme les Beatles presque, tu vois, c'était très très exotique pour eux. Et puis pour nous une super bonne expérience, c'est ce qu'on disait par rapport à l'album aussi. Le premier album, il a une vie grâce à nos voyages aussi. On a fait des rencontres, on a écouté d'autres groupes. Ouais, puis ça forge pareil, on est deux, ça forge un truc quoi, tu vois, on dort dans la même piole, on vit on part 3 semaines, mais on joue 6 heures en tout sur 3 semaines, donc tu vois, le reste faut qu'on s'entende bien quoi. Et donc c'est, bah, je trouve que ça forge un groupe, ça crée des liens encore plus, et puis des rencontres surtout. Et puis on a un pied dans l'Asie, maintenant on a réussi à avoir un mec qui est fan de nous aussi, qui s'appelle Pierra, qui lui a, on a un tourneur en France, mais on a un tourneur en Asie maintenant. Donc on avait un pied dedans, maintenant on en a deux. Voilà.
Ouais, donc partie remise incessamment peut-être sous plus ou moins peu là-bas quoi. Intéressant. On va faire vite parce qu'on est sur la fin de l'interview. Fin d'une tournée qui a commencé, me semble-t-il, en janvier. Vous êtes sur la fin d'une tournée parce que je suis allé voir un petit peu toutes vos dates. Vous avez commencé il y a quelques mois quand même la tournée,
ouais.
Si je dis pas de bêtises.
Oui, bah, enfin, nous, on s'en rend pas compte, on n'a jamais arrêté de jouer. Là, on a quand même. Non, ça va. Le pied, mais. Non, ça va. Après, on joue, on part pas pendant un mois et on joue tous les soirs déjà. Donc, on a le temps de rentrer chez nous de temps en temps, partir 3-4 jours, faire 3-4 dates. Mais on n'a jamais arrêté là. Tout, on a 5 jours de vacances au mois d'août. On est content de partir 5 jours en vacances. Mais non, pas trop naze. Les voyages, ça fatigue un peu, mais on a le temps de se reposer. Puis LMP gère ça bien au niveau des plannings des dates, quoi. Donc c'est.
Bah, c'est vrai qu'il y a un petit côté quand même où on fait ce qu'on veut tout le temps. Donc pourquoi avoir de vacances si on fait ce qu'on veut tout le temps.
On a quand même un beau métier.
Voilà. Exactement.
Allez, en deux secondes, avant que je me fasse tabasser par Frédéric, les projets à court, moyen ou long terme, en deux mots.
Deuxième album déjà. Qu'on s'aime toujours, qu'on ait toujours envie de jouer ensemble, et puis qu'il meurt pas à 27 ans.
Comme la majorité, malheureusement, des grands regrettés, des grands artistes. Attention, prenez soin de vous, messieurs. Bonne continuation, Kokomo. Un grand merci et à très bientôt sur les ondes d'Alternant FM. Salut.